Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 18 avril. C'est Cinérama. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et bonjour Manu.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous avons un sommaire un peu particulier, c'est les vacances, donc on a décidé de faire très léger et notamment de faire une rediffusion. On pourra écouter une interview de Bruno Podalides que j'avais faite il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et puis on écoutera aussi Claude Miller et Patrick Bouchité parler de La meilleure façon de marcher. C'est une interview que je devais déjà vous diffuser la semaine dernière. Et puis sinon, alors le sommaire, ça va être quoi, Marine? Un sommaire indigent en ce qui te concerne?
Pour moi, ce sera juste à moi seul. Voilà, de Frédéric Vidot que je devais chroniquer la semaine dernière et je n'avais pas pu.
Voilà, donc une chronique sur 15 jours, bravo Marine et Manu.
Donc la sortie en DVD et Blu-ray des trois premiers films de Polanski, Le couteau dans l'eau, Répulsion et Cul-de-sac.
Eh bien, ce sera toi qui auras fait la partie la plus copieuse.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Mais on commence avec un film brésilien. Alors après Low Life du couple Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, sorti il y a 15 jours, voici un nouveau film de couple, Trabalhar Cansa, de Juliana Rojas et Marco Dutra, qui ont passé du temps, avec beaucoup de succès, à réaliser des courts-métrages. Alors ce premier long-métrage a été montré dans la compétition Un Certain Regard, à Cannes 2011, où semblait-il il a marqué quelques esprits. Une fois qu'on a gobé le générique avec le logo des 18 financeurs, dont une banque pour clore la liste, on est de suite confronté au grain de la pellicule avec une sous-exposition qui annonce qu'on ne va pas rire, certainement pas. On est au Brésil pourtant, à nous les couleurs chaudes, samba, plage, etc. Eh bien non, nous sommes dans une grande ville qui ne donnera jamais son nom et la lumière est fade. Le premier plan, c'est un local miteux, une ancienne supérette qui attire la convoitise d'Elena, qui a envie de tenter le coup, de remettre tout ça en état et d'avoir son affaire dans un Brésil qui est l'une des économies à la plus forte croissance, mais où le travail bien payé se fait rare. Pour preuve, alors qu'elle compte annoncer la bonne nouvelle à son mari, lui tire une sale tête, il a perdu son travail au profit d'un plus jeune. Elena tente donc le coup, plus rien à perdre, un grand coup de balai, des peintures, une bonne sélection pour trouver le personnel qui fera tourner la supérette, et c'est parti. Sauf que dans cette boutique, rien ne tourne vraiment rond, des petits événements viennent perturber la quiétude d'Elena et finissent par embarrasser tout le personnel. Dans un dispositif qui nous fait pénétrer une famille, car Elena et son mari Otavio ont une petite fille, les réalisateurs insèrent des éléments perturbateurs de l'ordre du fantastique qui pourraient faire le pas vers l'horreur. Alors le mélange des genres, la chronique sociale et le film fantastique, ça fait plutôt un drôle d'effet, mais malgré tout on se laisse prendre au jeu de cette mise en scène qui oscille entre description et interprétation. La description de la société brésilienne repose sur quelques personnages. Alors, tout d'abord, le mari qui éprouve des difficultés à retrouver un travail, qui bute devant des méthodes de recrutement modernes et qui file gentiment vers la dépression. Ensuite, il y a l'employée de maison. C'est une jeune fille de couleur. Elle a dû accepter ce travail faute de mieux. Dans les scènes où elle s'occupe de la gamine, elle a le sourire et elle le lui donne donc à la petite fille. Et dans toutes les autres scènes, les adultes présents dans la maison, à l'exception du mari qui, lui, n'est plus dans une position de force, tous les autres adultes lui font comprendre son rang. Ici se joue l'histoire du Brésil et de son métissage, rappelé d'ailleurs dans le film avec une séquence qui nous emmène à un spectacle d'école où les petits blancs de la classe moyenne rejouent la libération des esclaves noirs conduits au Brésil par les Portugais. Alors, un personnage secondaire parfait le tableau, c'est le propriétaire des murs de la supérette, personnage arrogant qu'on imagine très loin du self-made man, mais plutôt du rentier. Au milieu de tout ça, eh bien, il y a Elena et sa supérette qui lui montent à la tête avec des événements donc fantastiques qui trouveront vaguement leur explication à la fin du film. Des perturbations qui vont faire vaciller la famille et le couple. La traduction de Trabalharkansa, puisque personne ne fait ici du portugais, eh bien, c'est travailler fatigue. On le sent à la vision de ce film, la difficulté se conjugue avec la paranoïa ou la dépression. On est dans un climat plutôt de malaise, toujours baigné dans cette lumière fade. Le fantastique nous emmène tranquillement vers une fable des temps modernes, un peu trop tranquillement, si bien qu'on ne sait pas eh bien, dans quoi on a mis les pieds. Alors une des catchlines du film, Marine, toi qui as déjà fait une chronique sur les catchlines, nous annonce encore une pépite du cinéma brésilien. Eh bien, moi je dirais, n'exagérons rien quand même. Alors, à propos de pépite, pour faire une petite pause dans cette émission, nous allons écouter un extrait de la bande originale de Cidade de Deus, ça je crois que c'est comme ça qu'on le prononce,
oui.
De Fernando Meirelles.
O caminho do bem. Modesta e fecunda, amor de doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal.
Voilà, c'est un peu plus joyeux hein, que ce qu'on peut entendre dans Trabalharkansa. Donc, film de Juliana Rojas et Marco Dutras qui est projeté au Diagonal.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Allez, un petit coup de projecteur sur Polanski.
Avant de défrayer la chronique pour une histoire de mœurs remontant aux années 70 et d'être un cinéaste de renom qui a progressivement viré à l'académisme, Polanski était un réalisateur dérangeant et radical en début de carrière. Non pas que des œuvres comme Les Très Bons, Le Pianiste ou Ghostwriter témoignent d'une perte de talent ou d'inspiration, simplement que les véritables perles du polonais sont à chercher en début de carrière, notamment avec trois titres fulgurants sortis dans les années 60 et aujourd'hui réédités en DVD et Blu-ray chez Film Media.
Thank you.
Déjà remarqué pour ses courts-métrages insolites, Le Gros et le Maigre ou La Lampe, Roman Polanski, pour son premier long-métrage et le seul dans sa langue maternelle, entendait bien s'écarter du cinéma de propagande propre à son pays vantant le social-communisme. Le couteau dans l'eau fut d'ailleurs très mal accueilli en Pologne. La critique voyait dans cette première œuvre un passeport pour l'Occident. Dès l'année suivante, le cinéaste s'envole pour l'Ouest et réalise Répulsion à Londres. Polanski est l'enfant naturel d'Hitchcock et de Fritz Lang, en plus tordu et caustique, cela dit. Il a su garder de ses origines un humour décalé, très spécial, que l'on retrouve chez d'autres artistes polonais. Le couteau dans l'eau part d'une situation assez simple. Un homme mûr de conditions bourgeoises embarque avec lui un jeune prolo sur son bateau afin de prouver sa supériorité aux yeux de sa femme. En affichant son arrogance et son mépris puéril, le mari finira par se retrouver cocu. Ce huis clos sur un yacht a des allures de fable à la fois tragique et burlesque. Polanski, en réfutant l'analyse psychologique appuyée, observe ses personnages comme un entomologiste passerait des heures à scruter les insectes. Le film part d'une situation classique. Un intrus va faire voler en éclats un couple. L'originalité de ce premier long métrage est de montrer d'emblée ce couple en crise. Dès le plan d'ouverture dans la voiture, le spectateur sait que le ménage bat de l'aile depuis des lustres. L'arrivée du beau jeune homme n'est pas réellement une menace, mais juste la confirmation de l'éclatement latent du couple. Entre la comédie satirique et le thriller d'atmosphère, Le couteau dans l'eau joue la carte de l'imprévu. Rien n'est surligné ni dramatisé. Polanski filme un jeu cruel avec une saine perversité. Petits mensonges ordinaires, humiliations diverses, affrontements physiques ou moraux se succèdent sans qu'on ne parvienne à complètement à cerner les personnages. Le mari veut-il reconquérir sa femme ? Est-il attiré par ce jeune homme mystérieux, reflet symbolique de ce qu'il a été quelques années auparavant ? Polanski place son regard au niveau de la femme qui regarde ce spectacle théâtral avec un mélange de fascination distanciée et de mépris réel. Elle reste aussi l'objet de toutes les convoitises. Ses formes rondes ne sont pas dénuées d'érotisme. La finesse du scénario, coécrit par un Jerzy Skolimowski débutant, est au service d'une mise en scène âpre et austère. La précision des cadrages et l'audace d'un montage elliptique misant sur l'intelligence du spectateur ne sont pas les moindres qualités d'une première œuvre subtile.
This is Carol Ledoux, young, beautiful, desirable. Men found her irresistible. Repulsion, a frightening film that takes the everyday world and distorts it, taking you inside the mind of a girl driven to insanity.
Fort du succès inattendu du couteau dans l'eau, nominé aux Oscars tout de même, Roman Polanski s'exile sans surprise et plus particulièrement à Londres, où règne alors un vent de liberté salvateur pour tous les artistes d'horizons divers. Une boîte, Condom Film, spécialiste des films coquins, accepte de financer le second long-métrage du Polonais. Écrit en collaboration avec Gérard Braque, qui deviendra l'un de ses plus fidèles collaborateurs, Répulsion débute par un œil en gros plan, un œil apeuré qui cligne des yeux, bouge sans arrêt de droite à gauche sur fond de musique rythmique trépidante. Polanski donne ainsi la mesure de son projet. Ce thriller psychanalytique n'a rien d'une œuvre tranquille et apaisée. On sent de la part du jeune réalisateur une envie de bousculer certaines règles établies, de manipuler le spectateur lambda. Influencé par l'esthétique de la nouvelle vague, la première partie du film décrit le quotidien morne et banal d'Hélène, impressionnante Catherine Deneuve d'ailleurs, manucure qui vit en colocation avec sa sœur. On sent une fêlure chez ce personnage apathique, sexuellement frustré, victime d'une phobie rédhibitoire des hommes. Enfermée dans son mutisme, elle partage sa vie entre son travail et sa vie en appartement. Aucune distraction ne semble éveiller la vie de cette jeune femme apeurée. Polanski, caméra au point, ne la lâche pas d'une semelle. Scrute le moindre de ses faits et gestes et qui pourrait nous indiquer un changement comportemental. À un moment donné d'ailleurs, Hélène est sur un banc en train d'observer une fissure au sol. Et là, on se dit que ça y est, elle va basculer dans la folie. D'autant qu'après le départ de sa sœur en vacances, elle va se retrouver seule dans l'appartement. Cette fissure n'était qu'un avertissement génialement amené par Polanski en pleine possession de ses moyens. D'une dépression chronique, Hélène va plonger dans l'horreur de l'âme humaine, devenant à la fois victime et bourreau. Polanski filme donc une descente aux enfers en usant de tous les artifices du cinéma de genre et s'éloigne pour le coup des influences citées ci-dessus. Sophistication extrême du cadre, emploi du grand angle, brusque travelling inquiétant, la puissance visuelle que dégage ce film, plan anxiogène sur un lapin en décomposition ou sur les murs en friche, ne serait rien sans le travail effectué sur le son. Vraiment agaçant, mais obsédant. Clapotis des gouttes d'eau, le bruit des mouches, le craquement. Polanski retrouve l'essence brute de l'univers de Kafka et plus particulièrement de la métamorphose. Plus le film avance, plus l'espace se réduit pour Hélène, qui finira étouffée sous le lit de sa chambre. Sans distanciation ni second degré, Polanski réalise un vrai film d'horreur, du genre qui peut nous arriver à tous. De vision dérangeante, il n'y va pas de main morte, prenant à bras le corps son sujet. Il anticipe son chef-d'œuvre ultime, le flippant locataire. Dans le château d'une île isolée où vivent Georges et sa jeune et jolie femme Teresa, surgissent deux gangsters, dont l'un agonisant. Le survivant, Richard, va troubler la vie d'un couple pour le moins étrange. Cul-de-sac jouit d'une réputation culte, éclipsant ainsi des œuvres majeures de Polanski. Pourtant, ce polar décalé et excentrique entre l'étude de comportement misanthrope et la comédie noire n'est pas, à mon sens, le meilleur film de son auteur. Trop de distanciation tue dans l'œuf ce petit jeu du chat et la souris entre un couple et un gangster pris au piège. Aussi brillant soit-il, Cul-de-sac tombe parfois à l'exercice de style clinquant et arrogant. Mais quel style ? Heureusement, le talent de Polanski est immense. Et il lui suffit d'un plan pour instaurer une dimension inquiétante, une image furtive pour faire basculer son film en plein cauchemar kafkaïen. Le frigo rempli d'œufs, Donald Pleasance se promenant en tutu dans le couloir de son château. La voiture des gangsters prise dans la marée sont autant de visions aussi drôle que terrifiante. Prolongement inversé du couteau dans l'eau, Cul-de-sac est une sorte de fable cruelle et ironique où le danger n'est pas forcément là où on l'attend. Le gangster survivant, excellent Leonard Stander, que tout le monde connaît pour son apparition régulière dans Pour l'amour du risque, l'apprendra à ses dépens. Le personnage incarné par un Donald Pleasance magistral est le catalyseur du film. Cet intellectuel souffre-douleur de son entourage, constamment rabaissé et ridiculisé, franchira un cap, un point de non-retour qui mènera tous les personnages dans une impasse, un cul-de-sac. Drôle et brillant, mais parfois désincarné. Donc si je conseille l'achat évidemment des trois films, il vaudrait mieux prendre le Répulsion, qui est à mon avis le meilleur des trois et vraiment le plus abouti formellement. Et c'est surtout un film d'horreur vraiment, vraiment flippant.
Grande réputation en tout cas, oui, pour ce film. C'est sans doute le plus connu même des...
De cette période-là, oui, c'est plus connu. Bah déjà, il y avait Catherine Deneuve qui était déjà une actrice débutante, mais elle avait déjà joué chez Jacques Demy. Voilà. D'ailleurs, dans Cul-de-sac, c'est rigolo, il y a sa sœur qui joue, c'est Françoise d'Orléac.
Ah, d'accord. On voit où il a fait son casting. Merci en tout cas, Manu, et à la semaine prochaine donc, pour l'absurde séance cette fois-ci.
L'absurde séance, et donc La sorcière sanglante.
Alors, avant de retrouver À moi seul avec Marine, on va écouter donc une interview de Bruno Podalides, réalisateur et frère de Denis, qui est lui acteur et qui est plutôt connu. Et donc on va parler avec lui notamment de la version interminable de Dieu seul me voit, alors qui était sous-titrée, je ne sais plus si c'est Versailles rive gauche, il me semble que c'est ça. En tout cas, il avait fait une trilogie, Versailles chantier, qui était un moyen-métrage, court-métrage, ensuite Versailles rive gauche, Dieu seul me voit, et il avait terminé par Banc public, voilà, qui était son dernier film. Voilà, donc je l'avais rencontré il y a un peu plus de 2 ans, c'est un réalisateur que j'apprécie, je me sers de ses films pour faire des jingles. jingle même pour Cinérama. On l'écoute, c'est un peu plus d'un petit quart d'heure. Et puis après, donc, on retrouve À moi seul et puis Claude Miller aussi.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Bonjour. Bah oui, c'est le film et le film est bien.
Eh bien oui, je m'appelle Bruno Podalides et je suis réalisateur.
Le film est bien.
Et scénariste.
J'aurais un petit mot à dire sur ce film. Mais pas maintenant.
Cette année, vous présentez la version interminable de Versailles Chantier. Comment est née cette version interminable et pourquoi distinguer finalement, enfin faire un long métrage et une version qui dure 6 fois 50 minutes ?
Au départ, j'ai écrit un scénario pour un très long film de plus de 6 heures en espérant faire un feuilleton pour le cinéma. Mais à l'époque, c'est mon premier film, c'était pas possible. Donc j'ai décidé de faire une version long métrage de 2 heures et puis remettre à plus tard. La version feuilleton qui existe maintenant, et je suis bien content, qui est 6 fois 1 heure, qui est pour moi là le vrai projet original.
De toute façon, ce film est une catastrophe. Connerie, 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 je vous dis, et même saloperie. Hein.
C'est TPS qui a financé tout le travail énorme de post-production, parce qu'on a tout remixé le film, tout rétalonné, etc. Et du coup, il est passé déjà sur une fois ou deux, je crois. Au moins, ouais, sur TPS, et c'est une sortie DVD surtout, en fait. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est voilà, il y a le coffret de Lost, et il y a le coffret de Versailles Chantier.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Là, j'ai eu un grand plaisir pour cette version, à résumer les épisodes précédents, par exemple, en images, parce que je montais les plans autrement, je montais pas les mêmes plans, souvent, même pas les mêmes prises, et je racontais le télescopage de certaines séquences qui, normalement, en les mettant côte à côte, ça crée un nouveau montage. Et... À la fin du film, il se retrouve à une manif avec les trois filles qui arrivent. Et là, de mettre les trois filles qui, l'une après l'autre, lui demandent « Mais tu vas à la manif ?» Chacune. Il n'y a que le résumé qui me permettait de le faire. Dans le film, c'est comme assez espacé. Voilà, ces rapprochements sont très amusants. Et ça, c'est propre à la forme feuilleton.
Bon, bah, t'as qu'à te garer là, mon vieux, on s'en fout, non ?
Bah oui, mais t'es marrant, toi.
Oh là 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 là.
Et du coup, tu l'as eu où ton permis de conduire ?
Mais monsieur, vous voyez bien que... Je vous permets pas de nous tutoyer. Hein. Ou alors on se tutoie, on descend et on se finit à coup de boule. Choisis.
Choisissez, hein.
Non mais enfin. Bon bah alors tu la prends cette place ou pas ?
Non mais je ne me gare pas sur un passage piéton.
Aïe, remarque, il a pas tort, hein. Tu conduis vraiment comme une vieille. Hein. Oui, 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 c'est vraiment... Là, ça va faire 3 fois là qu'on fait le tour.
Bah oui, mais il y a pas de
place. Bah oui, on va le faire combien de fois là ? 15 fois, non ? C'est pas possible. Bon, allez, écoute, stop. Allez, arrête-toi là, hein. Tu t'arrêtes là, tu vas porte de Champéret, hein, y a un grand parking, et puis voilà. Hein.
Bon, bah d'accord.
Ah, dis donc, quelle galère, dis donc, c'est pas vrai.
C'est l'histoire d'Albert, donc, qui est joué par votre frère, qui a du mal à prendre tout un tas de décisions. C'est pas forcément un grand séducteur, mais effectivement, il est aux prises avec 3 femmes. Alors, comment vous est venue cette idée de scénario ?
Je voulais rentrer dans le cerveau de quelqu'un, à l'endroit le plus intime qu'on avoue le moins, qui est celui souvent de l'irrésolution, ne pas arriver à s'engager. Et aussi bien pour un choix simple de la vie de tous les jours, au restaurant, un menu, ou dans les choix politiques, ou vis-à-vis des personnes. Et parce que ce moment-là de l'hésitation, ou l'irrésolution plutôt, je trouve que c'est en fait très important... dans notre vie intellectuelle, entre guillemets. Le mot est un peu fort, mais je trouve que c'est un moment où la démocratie bat son plein entre ses propres idées, qui chacune lève son petit doigt, il va falloir en choisir une. Et je trouve très important de ne pas avoir honte de ce moment-là. Alors je trouve souvent dans la vie de tous les jours, on le tait. On fait semblant d'avoir toujours décidé, y compris de sa vie, alors qu'on ne fait qu'en permanence composer aussi avec ce qui nous arrive. Et donc je voulais, voilà, c'est une idée qui était très anti-cinématographique, parce que ça débouche très vite sur l'inaction. Et en même temps, moi j'ai constaté qu'on est encore plus actif quand on a ce type d'empêchement, parce que du coup on est obligé de tester toutes les idées, d'envisager tous les possibles, et ça c'est épuisant, pour n'importe quoi. Un gars au restaurant qui décide vite qu'il envie une blanquette, il est vite libre pour parler avec ses convives. L'autre gars qui hésite entre blanquette et rôti de veau, il s'imaginer en train de manger du rôti de veau, et il va s'imaginer en train de manger de la blanquette. c'est douloureux, et en même temps, il fait l'expérience du coup mentale de manger du rôti de veau, et il découvre plus de choses aussi. Je trouve cette curiosité, plutôt que le gars qui va systématiquement manger sa blanquette parce qu'il sait que c'est bon, il est plus curieux aussi. Donc je salue souvent ces moments-là, mais c'est dur à raconter, quoi.
Cela dit, il y a aussi les prépéautés qui venaient
invités qui doivent pas être dégueu.
Dans les cailles, y a jamais grand-chose.
Et toi alors, tu t'es arrêté au miel Coutarone?
Oui, parce que l'estragon, ça apporte un contrepoint acidulé au Tarone.
Ah oui.
Ça relève sans s'imposer.
C'est bien ça. Ça me tente, enfin.
Et vous avez tout de suite pensé à votre frère pour le personnage d'Albert qui avait déjà joué hein, dans le premier. Enfin, c'était un court-métrage, hein, 45 minutes. Le premier morceau de la trilogie Versailles, comment on dit ? Versailles Rive Gauche. Oui. Voilà. Vous aviez tout de suite pensé à votre frère ?
Oui, pour Dieu seul me voit, oui, c'était le seul acteur dont je disposais au départ. Et puis après, il me comprenait très bien. Et donc, on a écrit les dialogues ensemble aussi. On a joué toutes les scènes du film intégralement. Ce qui est bien, c'est qu'il était déjà acteur de théâtre. Parce que dans Dieu seul me voit, Versailles Chantilly, il y a beaucoup, beaucoup de très longs plans. Et il les a tenus. À la fin, il fait trois longs monologues au téléphone. Là, avec les et là, je l'admirais parce qu'il tenait quand même des plans... Je sais plus combien il durait, 6 minutes. Hein.
Mais l'idée de m'engager me fait vomir, tu comprends? Ça me fait dégueuler. Hein. Puis après tout, on n'est pas obligé. Pourquoi toujours trancher, toujours couper? On peut dénouer, on peut démêler. On n'est jamais fier de négocier, c'est presque la honte. Ben, je trouve que c'est dommage, tu vois. Hein. Voilà. Alors, ben tiens, c'est comme Cuba, tu vois. Alors, on peut dire aussi que les Américains ont eu intérêt à ce que Cuba devienne communiste. Et puis Castro, on peut dire aussi qu'il a intérêt à maintenir l'embargo pour rester au pouvoir, on peut dire ça. Alors d'accord, les Américains font changer de sucre à tout le monde, saccharose, machin, tout ça. Mais moi, je sais plus quoi penser, tu vois. Hein.
Oui, il y a aussi le moment où il, avant d'aller au cocktail, après ce fameux film,
oui.
Où il choisit ses vêtements, là aussi, il est avec l'épée, ça dure très très longtemps, il s'en sort très très bien.
Oui, oui. Alors ça, c'est amusant au cinéma quand on arrive à trouver des transpositions... concrète de circonvolution mentale. Par exemple, là, il s'exprime avec lui-même, en fait. Son adversaire, c'est lui-même dans le choix des vêtements. Et...
un pull, tiens. Un pull. Bonjour. Voilà. C'est un très beau film. J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film. Qu'est-ce que je fous, moi ?
Il n'arrive pas à trouver... c'est encore le propre des gens vers 20-30 ans à s'assumer comme on est. Donc il n'arrive pas à trouver ses fringues. Donc il n'arrive pas à trouver non seulement ce qu'il est, mais ce qu'il arrive même à paraître. Il tombe dans une neutralité absolument déprimante. Mais j'aimais bien que ce soit une bataille, quoi, concrètement.
Donne-moi des raisons de rester.
Eh ben, c'est ça l'amour fou, c'est faire ce qu'on n'avait pas prévu. Ouais. Si tu ne le fais pas maintenant, quand est-ce que tu le feras hein? Non, et puis je sais pas, ça peut-être le toucher que tu sois resté.
Ouais. Hein,
tu crois? Bah oui, c'est la fin de ta vie, non?
Ah oh, la vache, je sais, elle est repartie avec la caravane. Je lui ai dit que je partais très tôt, j'ai eu l'air très décidé. Mais que je suis con, alors! Bon, qu'est-ce que tu ferais, toi?
Bah je sais pas. Je sais pas, faut peut-être pas te le faire quand il est chaud.
Mais pas te le faire quand il est chaud, ouais. Je sais pas, tu pourrais peut-être rester, toi, Lucille, hein,
non.
La caméraman.
Non, oh. Elle est trop.
Elle est trop quoi?
Non, elle est trop mec, non.
Oh.
Non,
bon, c'est...
Bon. C'est pas. Donne-moi un ordre.
Je t'ordonne de rentrer avec moi.
Mais non, mais ta gueule, regarde-moi dans les yeux, là.
Un ordre, c'est un ordre.
Prochain film, c'est pas un film qui est vraiment la suite de Dieu seul me voit. C'est plein d'histoires, il y a 50 personnages. Donc mon frère a un rôle un peu plus important que les autres, puis beaucoup d'autres acteurs.
Odile de la Touze, Armel et Charles Perrin de Brichambard.
Non, alors on élimine les couples.
Ah, il y a un bémol.
Ah bon?
Ah, il y a un bémol. Oui, bonjour madame, nous allons au quatrième, vous pouvez nous ouvrir?
C'est ça, vous voulez pas ma carte bleue non plus?
Non mais vous avez pas vu la banderole au-dessus?
Occupez-vous de vos fesses.
Toi la vieille, ferme ta grande gueule, hein. Et compte pas sur moi la prochaine canicule.
T'énerve pas.
Les passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques.
Il y a de nombreux acteurs, là vous parlez de 50. Il y a, ouais. J'imagine, toujours les mêmes, hein, ceux qui vous ont suivi depuis le début. Mais il y a aussi des grands acteurs.
Moi, ce qui me plaît toujours, c'est de mélanger les acteurs entre eux. Ça m'avait beaucoup plu pour Parfum la Dame en Noir, quand Zabou s'était mêlé à ma petite équipe, ou Vincent Elbaz. Et là, c'est encore plus évidemment évident. J'ai retrouvé donc vous dites qu'ils me suivent, mais j'ai l'impression, moi, de les suivre, plutôt. J'essaye de... Voilà. Et puis, plus tous les autres comédiens. Alors là, ce qui me plaisait pour ce film-là, c'était d'appeler des gens d'horizons très différents. En fait, il y avait des gens de la télévision. Il y avait les trois inconnus, les trois Bernard Campan, Bourdon, Légitimus. Puis il y avait des gens... Chantal Lobby aussi des nuls, Willy Semoun, ou des comme ça, puis Deneuve, Lonsdale, Claude Rich, Balasco, voilà, des gens d'horizons différents. Et ça, ça me plaît beaucoup, qu'on ne soit pas cloisonné dans des familles de cinéma.
Tu comprends, il se lève à 15h de l'après-midi. Alors moi j'ai dit à sa mère, tu vas l'avoir jusqu'à 40 piges, hein. Il passe son temps en ligne avec ses potes. Il a toujours pas baisé de mon zeste. Il est dans le virtuel. Après, il veut pas faire flic. Il veut pas faire l'armée. Il pense que c'est dégradant.
Oh, la société, tu veux ça?
Oh, la société, mais non, la société, elle a bon dos, la société, tiens. Tu bosses, point. Tu bosses. Carré, tu bosses pour gagner ta vie, quoi. Alors que les gens en ont marre. On va peut-être vers un nouvel équilibre, en fait.
Je l'ai appelé banc public, Versailles rive droite. Parce que j'ai tourné à Versailles, aussi con que ça. Et parce que je trouvais que néanmoins, ça parlait de choses communes aux trois. Versailles gauche, Dieu seul me voit, Versailles chantier, celui-là. Et puis il y avait la même famille d'acteurs, il y avait beaucoup de choses en commun. Sur l'île. J'avais le projet de retrouver un peu les personnages des films précédents, autour de la quarantaine, ayant des enfants, des métiers. Donc voilà, c'est ce côté-là. Et après, et puis un éclatement de l'histoire. J'ai beaucoup de mal, j'ai eu un mal fou à faire la suite du Mystère à Chambre Jaune. J'ai l'impression de me répéter. Donc le parfum est assez différent pour ne pas recreuser le même sillon. Et là, c'est pareil, je relisais que Tati, après, il y a plein de Monsieur Hulot dans les derniers Tati, enfin, dans Playtime surtout. Il diffractait son personnage qui partait dans tous les sens. Et là, moi, c'est pareil, j'ai eu envie de faire un film non plus centré sur un cerveau, comme je disais, pour Dieu seul me voit, mais pas sur plusieurs cerveaux, mais sur plusieurs corps, sur plusieurs personnages, quelque chose de collectif. Donc ma musique, elle est chorale, et voilà, le collectif m'importait. J'ai pris trois lieux communs, des bureaux, un square et un magasin de bricolage, avec voilà, plein d'histoires.
On a beau avoir écrit des chefs-d'œuvre, construit des ponts, récolté des millions de tonnes de blé. Arrivé à 50 ans, c'est la coloscopie.
Eh oui. Et puis, on reprend sa belle voiture, son bus, son sac à course, et on repart vers la soixantaine.
Et arrivé jusque-là, dans le meilleur des cas, nouvelle coloscopie.
Eh oui.
Alors, on a parlé bien de Versailles rive gauche, de Versailles chantier et puis de Versailles rive droite, donc oui. Votre prochain. Il y avait aussi Liberté Oléron,
oui.
Où là, c'est pareil, votre frère qui s'y collait, hein, personnage principal, chef de famille qui va en vacances donc sur l'île d'Oléron et puis qui d'un coup a envie d'un petit dériveur lesté.
Et voilà notre zigomar, dériveur lesté, bien lesté même, on n'est pas deux comme ça. Il a son histoire. Un bateau de l'amour.
Là aussi, vous avez continué dans cette voie du burlesque. Et là, vous avez cette fois-ci inséré vraiment la famille. Là, c'était plus un séducteur. Il n'avait pas eu de problème. Il a fait 4 enfants.
Oui. Mais pour moi, ce n'est pas du tout le même personnage que même si c'est mon frère. C'est très amusant quand il y a des gens comme ça qui tentaient de... qui tissent des liens de film en film et que je ne tisse pas toujours moi et que on retrouve Albert Jean-Jean, père de famille, c'est pas du tout le cas, je trouve que c'est même le contraire, tout le défaut là, du coup de ce gars-là dans Liberté Oléron, c'est qu'il hésite pas 3 secondes, il est toujours convaincu de l'appel de la mère, et je vais me donner les moyens, il se donne très peu d'ailleurs en fait, mais il se croit compétent, il se décrète, c'est la caricature du chef, il devient dictateur. Mais passé cette caricature, j'avais pas trop envie non plus d'en faire un personnage complètement négatif. Je salue en même temps son goût d'entreprendre, de vouloir emmener sa famille. Parce que beaucoup de types aussi sont dans une espèce d'ennui, alors que lui, il a des projets. Déjà, moi, je salue ça. En fait, il se trompe parce qu'il veut tout le temps mettre en scène sa vie. Et c'est là où il se rend pas compte de ça, je crois, le pauvre gars. quand sa petite famille applaudit parce qu'il vient d'acheter le bateau, il salue comme au théâtre. Et lui aussi, il ne trouve pas son costume, comme Albert Jean-Jean, c'est peut-être un point commun. Sauf qu'Albert Jean-Jean joue un peu comme ça, cache le fait qu'il a parfois pas d'avis, mais s'embarque pas dans une composition napoléonienne, alors que l'autre, le père d'un Liberto Léron, lui, au contraire, il va droit à se décréter seul maître à bord après Dieu, etc.
La belle de la mer.
Bon gueule !
Arrêtez ! Bon gueule !
Tu dis ! Il a dit bon gueule !
Attention, tu vas empanner !
On va empanner !
Et ben voilà ! Reste assise et à la gîte ! Ça te servira d'avertissement !
Alors, pour l'élaboration de ce scénario, donc j'imagine que vous connaissiez Oléron. Pour le personnage, notamment, vous avez un salarié dans le personnage que vous jouez, qui s'appelle Jeannot, comment il s'appelle ?
Ah, l'ouvrier.
L'ouvrier, voilà.
Le Bob Marley du bricolage.
Donc celui-ci, comment vous l'avez imaginé dans le scénario ?
Ah bah, comme un bon glandu. Moi, je suis très content qu'Eric Elmostino accepte de jouer le rôle, parce que c'est un acteur de théâtre qui a été difficile à attraper. Depuis, là, il est en train de tourner Gainsbourg, il va jouer le rôle de Gainsbourg. Il y a un petit côté comme ça, Gainsbourgien déjà vaguement dans le personnage.
Vous vous êtes amusé en fait avec un jargon incompréhensible.
Oui. Moi je connaissais qui m'a aidé sur le tournage de Liberto Léron, un grand marin qui disait que la plupart des termes de marine pouvaient être remplacés par des mots de tous les jours. Et c'est une façon comme ça d'affirmer un pouvoir, une compétence que on pourrait... bâbord, tribord, on pourrait très bien dire à gauche, à droite. Hein. On sait que c'est dans l'axe du bateau, pas besoin de... Et donc voilà, c'est pour se moquer de tous ces gens qui constamment mettent des obstacles par les mots.
Et donc le péton existe vraiment ?
Non. Là, c'était marrant parce qu'on a mélangé des vrais termes de marine et puis des faux. Et puis les gens parfois pensaient que c'était inventé alors qu'en fait c'est des vrais termes. Et puis d'autres, les taquets coinceurs, ça existe vraiment. Et puis d'autres comme les pétons inventés.
Vous faites les pétons, hein ?
Quoi, les pétons ?
Oui, les pétons. Là, il y a deux têtes de pétons, là. Là,
oui.
Hein ? Là, il y a deux têtes de pétons qui... Alors, vous voyez, ça peut riper sur le croc, hein ?
Oui, enfin, je vois pas du tout, là. Mais quand je suis en pleine mer, moi, vos pétons, ils sont où ? Qu'est-ce que je fais ?
Là, faudrait tout démonter, là. Vous pensez, là, ils sont en dessous, le croc, là. Ça, c'est tout petit, mais ça suffit, hein.
Il fout le camp. Dites-moi, là, vous jetez un coup d'œil quand même ?
Oui, oh ! Ça va, là ? Faites un peu de silence.
C'était Bruno Podelides, donc une interview réalisée il y a un peu plus de 2 ans au Festival Itinérance d'Alès.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique !
Sur Divergence FM.
À moi seul reprend le fait divers qui avait fait les gros titres en 2006 lorsque Natacha Kampusch, une jeune autrichienne, s'est enfuie de la cave dans laquelle son ravisseur l'avait enfermée durant 8 ans. Sans avoir pour autant souhaité retranscrire cette affaire, le film de Frédéric Vidot en reprend avec exactitude de nombreux points, s'attardant sur le cheminement psychologique des personnages. Car une fois Gaëlle, c'est son nom, sorti de son cauchemar, un autre l'attend, enfermé en hôpital psychiatrique pour juger de sa santé mentale, obligé par ses parents à se cacher pour éviter les journalistes, la jeune fille semble ainsi transiter d'une prison à une fausse liberté.
Je vais refaire ma couleur, ça me va pas se platine, j'ai l'air d'une pouffe. Tu vas me forcer à te raconter ma vie ?
Non. T'as réussi à t'échapper.
Je me suis pas échappée.
Si.
Non, maman.
Le film débute au moment où elle s'échappe et met par la suite en parallèle son présent et ses moments de captivité, démontrant que la frontière est bien mince entre l'amour étouffant des parents et le comportement psychopathe de son ravisseur. Plutôt que d'en faire un bourreau, le film a la finesse, et c'est là tout son enjeu, de le transformer en un personnage ambivalent et de laisser planer le doute sur la relation entretenue avec sa prisonnière. Cette dernière est jouée par Agathe Bonitzer, qui incarne parfaitement un personnage taciturne et revêche par un jeu désincarné, à tel point que son geôlier paraîtrait presque sympathique à ses côtés. Les ombres volontairement portées sur leur relation évitent ainsi judicieusement un clivage bourreau-victime qui aurait desservi le trouble que tente de jeter le film sur nos a priori. Des subtilités qui doivent beaucoup à l'interprétation de Reda Kateb, second rôle découvert dans Un prophète de Audiard, qui joue ici la partition délicate du criminel attachant.
Un paragraphe sans faute et on arrête.
À quoi ça sert que j'écrive sans faire de faute puisque je sortirai jamais d'ici ?
Maintenant, tu te calmes, Gaëlle, sinon je te boucle jusqu'à demain, t'as compris ?
Je veux qu'il crève. Mais pas encore attrapé, que je sache.
Les rapports entre la jeune Gaëlle et les personnages qui gravitent autour d'elle, chacun imaginant faire son bien plus que quiconque, sont tout l'enjeu du film. Confrontée tour à tour à sa psy, à son père alcoolique, à sa mère ravagée ou à son ancien meilleur ami, la jeune fille défaite de ses repères doit se réinventer en fonction de ce qu'ils attendent d'elle. L'occasion de retrouver Noémie Lvovsky, impressionnant de profondeur et d'émotion, mais à nouveau coincée dans un second rôle qu'elle illumine. Rappelons quand même qu'elle a tourné en 2011 dans La Polonie, dans Présumé coupable, Le Skylab, 17 filles et Les adieux à la reine, toujours dans des personnages secondaires, à croire que les réalisateurs ne savent pas écrire de premier rôle pour des quinquagénaires lorsqu'elle ne s'appelle pas Nathalie Baye. À moi seule est presque un drame initiatique, une vision mélancolique de l'éducation et des entraves sociales, une réflexion sur la notion de liberté et sur le fait de devoir grandir en se libérant de ses attaches. Un film difficile à cerner, dont la conclusion serait que la vie n'est qu'une suite de séquestration. Donc ça passe toujours au Diagonal et je pense que ça passera ensuite à l'Utopia.
Cinérama sur Divergence FM.
Décidément, c'est une émission avec beaucoup de reprises, puisqu'après Bruno Podalides, eh bien, on va écouter une interview de Patrick Bouchité de Claude Miller. Alors Patrick Bouchité, c'était il y a un an, et puis Claude Miller, c'était il y a 2 ans qu'il était venu ici à Montpellier. Voilà, en tout cas, je les ai fait parler à peu près du même film, c'est La meilleure façon de marcher, premier film de Claude Miller. Claude Miller qui nous a quittés il y a peu.
Et moi aussi, je peux rentrer dans ta chambre comme ça, sans crier gare. Et alors, qu'est-ce que je vois ?
Ouais. Et alors ?
Attends, je trouverai bien.
Quoi ?
Tes petites manies, là où ça te chatouille.
Une fois que j'avais lu le scénario, j'avais vraiment envie de le jouer parce que c'était un rôle assez ambigu. Mais j'étais à ce moment-là dans ma vie, que je pouvais me permettre de rentrer dans ce genre de personnage. Claude l'a senti et puis voilà, on a fait des essais avec Patrick, ça s'est très bien passé. Et puis j'ai fait le film. C'est un film qu'on a fait avec peu de moyens, qu'on a tourné en 5 semaines. Il s'est passé plein de choses, quoi, parce que c'est un film très souterrain, quoi. C'est ce que j'aimais, moi. Le non-dit, c'est un film sur la tolérance, avec 2 personnages très ancrés, comme ça, dans une colonie de vacances. Ça a été la rencontre avec Patrick, et on s'est liés d'amitié, on est resté plusieurs années très très liés après ce film.
Comme disait ma grand-mère, que j'aimais tant, tu balabreloques. Tu balabreloques, mon vieux. Tu balabreloques, ça veut dire que tu déconnes. Ça veut dire que ça va pas. C'est marrant, parce que c'est toi qui es venu me chercher. Tu trouves pas ? C'est marrant ? Hein ? Je veux qu'on soit copain, Marc. Je veux qu'on soit ami. En fait, t'avais la trouille, alors tu m'as fait un brin de cour. T'as peur que j'aille tout raconter ? Raconter ce que j'ai vu ?
Tu le ferais pas.
Lamentable. T'es vraiment un branleur. Tu chies dans ton froc.
Donc effectivement, 2 personnages complètement différents. Il y a Patrick Devers qui joue un animateur dans une colo avec une certaine morale. Claude Piéplu, la voix des Shadok, hein, qui joue votre père.
Raoul Delous va devoir nous quitter.
Vous êtes le fils qui arrive comme ça, type réservé, amoureux d'une femme, mais très embêté. Il y a cette ambiguïté sur la sexualité.
Pas très bien dans sa peau, très sensible, alors qu'il subit un peu un petit peu cette espèce de pression que lui met son copain qui est moniteur, ses 2 moniteurs. Lui, il est assez à la recherche du théâtre, des choses plus. Et l'autre, il est très un peu comme à l'armée, quoi. Donc, une espèce de rapport sadomaso, il faut le dire, pendant un moment, là, il me cherche, quoi. Jusqu'au moment où il me trouve vraiment. C'est-à-dire que le personnage, lors du bal masqué, la dernière scène, se travestit en femme. Mais avec vraiment que ses attributs, sans perruque, sans rien, juste une robe. Et là, je le mécanise, faut bien le dire. Je reprends le pouvoir, quoi. Et je me suis d'ailleurs aperçu que le fait d'être maquillé, d'avoir une robe, on a quelques atouts, quoi. On peut en profiter.
Faut pas rougir comme ça, mon vieux. C'est ça qui se passe dans un pajot entre un mec et une fille. L'amour, le cul, les poils. Tu connais pas tout ça? De toute façon, Chantal, ça ne m'étonnerait que tu lui fasses du mal. Je suis sûr que vous avez jamais tiré un coup, c'est pas vrai? Ça doit lui manquer. À moins qu'elle ait ce qu'il lui faut à Paris. Oh oui, c'est ça. De se faire sauter par d'autres mecs, c'est humain. Tu vois, un mec m'aurait dit ce que je viens de te dire, j'aurais déjà arraché la gueule. Toi, t'as même pas bronché.
Tout le monde me fait beaucoup de compliments sur La meilleure façon de marcher. Et je l'ai revu l'année dernière. C'est un film qui m'a agacé. Enfin, je le trouve réussi dans le détail, mais il y avait quelque chose qui m'a agacé dedans. Et j'ai revu un film que tout le monde a dégueulé dessus, qui s'appelait L'accompagnatrice.
Oui, ça t'a plu.
Et j'ai trouvé ça vachement bien. Mais c'est vraiment, on n'est pas intéressant, nous, en tant que juge de nos propres trucs.
Mais vous avez un préféré, quand même, dans votre film?
Moi, j'ai des préférés, oui, oui. Mais alors, mais c'est le moins connu, c'est le film que j'ai fait pour Arte, qui s'appelait La Chambre des Magiciennes. J'adore ce film, je suis très fier d'avoir fait ce film, il m'amuse beaucoup.
Ça m'énerve un peu, Claude, qu'on lui dise tout le temps, votre meilleur film, c'est votre premier, quoi. Mais en tout cas, c'est un film où il était très impliqué. C'est un premier film, il y a mis beaucoup de lui-même, et bon, c'est un film qui n'a pas pris une ride, quoi. Le sujet est toujours d'actualité, mais bon, c'est normal, ça l'énerve un petit peu. Non, c'est un grand souvenir, quoi. Il y a plein d'anecdotes sur ce film qui nous ont d'ailleurs, comme je l'ai déjà raconté, assez unis avec Patrick, quand on s'est retrouvés avec, voilà, ça crée des liens, ce genre de rôle.
Nous vous disons au revoir et à bientôt. Nous conserverons malgré tout un excellent souvenir de vous. Dites-leur donc quelques mots, non, ce serait très gentil et non, très élégant. Et d'ailleurs, monsieur Deloup va vous dire quelques mots.
Merde !
Cinérama.
Vous faites chier ! Vous faites tous chier ! Merde !
Sur Divergence FM. Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes ?
Sinon, pour faire simple, on aurait pu dire que le Kino Cabaret, c'est du 12 au 21 avril, que c'est 9 jours pour faire des films et que c'est à Montpellier.
Et on peut ajouter, puisqu'on n'a que cet événement dans l'agenda, et oui, on est très feignant pendant qu'il y a les vacances, que le dernier Kino Cabaret, en tout cas la dernière projection publique de tout ce qui aura été préparé par les Kinoïtes, eh bien, se déroulera le 21 avril. Ce sera salle Rabelais, et c'est à 20h, voire 20h30.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Tout de suite après, retrouvez 24 notes secondes consacrées cette semaine à la musique de Cléopâtre.
Ainsi s'achève Cinérama. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM.